Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Qu'est-ce qui se passe à la tête de l'hôtel Sarakawa où Madame Nathalie Buteau a été limogée, celle qui détient les rênes de la structure hôtelière depuis 2016, désormais remplacée par le commissaire lieutenant-colonel Komlan Edem Agbenyegan Goumedjoué. Le journal en ligne, le tabloïd nous informe que c'est la visite du ministre Sani Yaya accompagné de quelques Libanais qui déclencherait ce processus de limogeage de celle qui a reçu des distinctions pour sa bonne gestion de l'hôtel, ce qui lui a valu la confiance du chef de l'État pour la réhabilitation tout récent de l'hôtel Les Bénins. Nous parlerons du sujet dans cette émission avec mes confrères journalistes en studio, bien sûr, dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 18 février 2025. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sky FM à Badou, Sama FM à Baga près de Niamtsougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo et du continent africain, sans oublier le monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères déjà en studio avec moi, c'est Adam Adronou. Adam, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio de la nouvelle génération 93.5.
Et j'espère que vous allez bien.
Oui, c'est par la grâce de Dieu, ça va.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'autre c'est... qui a répondu aussi à notre invitation, c'est Eric Parkoudjou-Johnson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci.
Dieu merci, ça fait plaisir de vous retrouver en studio et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi.
Voilà, nous sommes au mardi et vous savez très bien que le mardi, ça rime bien sûr avec la chronique littérature et notre chroniqueur, conseiller littéraire et aussi écrivain est en studio avec nous, Claude Assiobotis. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oui. Claude, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, Dieu merci et merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Nous continuons d'explorer notre thématique faits historiques et fiction togolaise. La dernière fois, nous avons introduit une nouvelle œuvre, On joue la comédie, une pièce de théâtre célèbre de l'écrivain togolais Senouvo Agbota Zinsou qui avait pour sujet l'apartheid. L'apartheid, Claude, vous l'avez défini comme un concentré de l'esclavage, de la colonisation et de la dictature à l'époque où sortait le livre. Le problème qui préoccupait les écrivains noirs, c'était l'échec de nos indépendances. Alors, Claude, pourquoi l'auteur ne s'est pas inscrit dans ce mouvement d'ensemble, ce thème plus proche?
Moi, d'ensemble, vous voulez parler de la dictature qui a suivi nos indépendances?
Tout à fait.
Pourquoi Agbota Zinsou ne s'est pas inscrit dans ce mouvement? C'est ce que vous voulez dire?
Tout à demander. Fait.
Et on a interviewé l'auteur même quelque part et il a dit qu'il ne s'agit pas simplement dans ce livre de l'apartheid mais de tout système ou de tout régime d'oppression. Hein? Et vous savez, il est togolais et j'ai écouté la dernière fois l'une des rares personnes politiques que je porte. Porte de mon cœur, Jean Degli, qui disait que le régime togolais n'est pas un régime idiot. Oui, mais je crois que personne n'a dit ça. Hein. Personne n'a dit ça. C'est plutôt un régime fermé. Fermé. Et tout régime fermé est très intelligent, à des fins de conservation de pouvoir. Hein, donc on ne peut pas dire que... Mais donc c'est un régime fermé et Agbota Zinsou ne pouvait pas qui tu es pour parler à l'époque de la dictature au Togo. Les livres, ils veillaient. L'autocensure était plus, plus observée que la censure. Alors, pour parler de ce thème hautement sensible à l'époque, dans un régime fermé donc, Serubo Agbota a utilisé des détours. Il a abordé le sujet. Hein? Et comme lui dit, même dit, c'est pas l'apartheid nécessairement, réduire l'Afrique du Sud. Et pour le faire, pour utiliser des dribbles, il a utilisé trois techniques. Il y a le concept party. Certes, c'est d'abord pour un but esthétique, mais dans ce théâtre, on a l'impression, le concept party, je veux dire, hein, qu'on ne vise rien que, on ne vise rien de sérieux, mais simplement le rire pour le rire. Hein, ça détourne l'attention. Mais il a surtout, la, c'est l'astuce qu'il a utilisée. La deuxième astuce la plus percutante, c'est la distanciation spatiale. Hein. L'apartheid, c'est en Afrique du Sud, tout le monde le sait. Et même les dictateurs de l'époque sont d'accord et se mobilisent contre l'apartheid. Et ils ne pouvaient jamais savoir qu'on parlait d'eux. Voilà, c'était la bête noire de tout le monde. Mais, troisième astuce, c'est les allusions subtiles de Agbota Zissou qui vous obligeaient, surtout les lecteurs, nous autres lecteurs avertis, à relire en les lignes le texte. Hein, les personnages qui avaient des problèmes en minant, Randomi, tout ça, obligé à relire le livre entre les lignes. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Que l'apartheid, le vrai apartheid, c'était nos chefs d'État qui n'étaient que la silhouette des Blancs de l'Occident à l'époque. C'est des projections. Et ceux qui sont ici, c'est comme des, ils gouvernaient par procuration. C'est plutôt des silhouettes des Blancs, comme la patate.
Est-ce que ça veut dire qu'ils gouvernaient mais n'avaient pas assez de pouvoir?
Non, ils n'avaient pas. Ils sont téléguidés de l'extérieur. Et comme toute silhouette, c'est des silhouettes noires. Il n'y a pas de silhouette blanche. Est-ce que vous suivez? Et même la silhouette des Blancs, c'est des silhouettes toujours noires. Et nous, à l'époque, et n'oubliez pas, hein, il a réussi avec ses astuces-là à faire entrer le livre au programme. Moi, je l'ai expliqué à mes élèves de terminale à l'époque. Hein, et donc, c'était subtil. Donc, c'est comme ça qu'on le disait. Et l'apartheid même, c'était ces silhouettes noires de nos Blancs qui téléguidaient les choses depuis l'Europe.
D'accord.
Voilà.
Oui, mais Claude, est-ce qu'aujourd'hui, le thème de l'apartheid, cette injustice politique cruelle, n'est pas un thème dépassé depuis la chute alors du mur de Berlin?
Non, je crois que le phénomène est devenu vertical. Hein? Ce n'est plus un problème de race, mais un problème de classe. Hein? Aujourd'hui, au sommet, vous avez des élites, des diplômés corrompus en veste et en bourgeoisie, et vous avez à la base la masse misérable et paupérisée. Hein? Ouais, c'est ça en réalité. Dans tous nos pays, vous avez des diplômés qui ne savent pas qu'ils sont là pour faire le bonheur des peuples. Hein? Ce qui les intéresse, c'est les vestes, les lunettes dorées, les grandes voitures. Ils sont en haut, ils piétinent ceux qui sont en bas. Et voilà ce que l'apartheid est devenu.
Et ce n'est plus le nom apartheid quand même.
Oui,
le phénomène a changé.
Oui, mais c'est un jeu de vocabulaire. Ça ne trompe personne. Hein? Dans une société, les élites sont là pour tirer le reste vers le haut. Hein? C'est ça, un intellectuel, un diplômé. C'est ça. Hein? On n'est pas là pour se mirer dans ses diplômes, pour simplement pour en jouir. Hein? On ne va pas à l'école. Pour traîner ses parents dans la boue. Hein? C'est ça. ce que nous faisons.
C'est vrai que c'est une problématique dans nos pays aujourd'hui, parce que on attend les intellectuels ou la classe et d'élite sur beaucoup de plans. Et quand il y a lieu que tout le peuple se trouve dans une confusion totale, on se dit que c'est la classe des élites qui pourra facilement nous donner, qui constitue le baromètre, la boussole, pour nous donner le bon sens. Mais finalement, c'est comme si on a du mal à écouter alors cette classe des élites.
Qui a du mal à les écouter? Vous parlez de qui?
Non, mais quand je dis, c'est que quand cette classe ne parle pas en tant que telle, pour que du moins on arrive à retrouver le bon sens, c'est ce que je dis.
Ouais, mais cette classe, oui, c'est non, elle bavarde plutôt. Hein, c'est que lorsqu'on a été à l'école, on devient, comme le dit souvent les écrivains, hein, la tête et la voix et la bouche et la tête du peuple. Est-ce qu'on on n'est pas là pour vivre perché, hein, c'est ça, hein, dans des climatiseurs, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Ben là, on n'a pas compris. On fait même pire que le blanc, parce que souvent nous adoptons leur attitude, mais pas les valeurs qui les sous-tendent. Est-ce que vous voyez ça? Hein, c'est ça. Ils savent ce que c'est qu'un peuple, au moins, hein, ils savent ça.
D'accord.
Mais voilà.
Alors, Claude, on joue la comédie, cette pièce de théâtre que nous sommes en train d'étudier. Quel sens peut-on donner à ce titre de la pièce?
Bon, souvent, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas expliquer un titre en principe, mais moi, je ne suis pas d'accord. Et le titre, c'est toujours le point d'optique, hein, d'une œuvre.
Hein, c'est la vitrine.
La vitrine. Et même si l'auteur, si l'éditeur, si c'est un droit qui vient l'éditeur, c'est souvent quelque chose de très pertinent. Et surtout lorsqu'il s'agit du théâtre, c'est l'auteur, et ce titre, je crois que c'est l'auteur lui-même qui a donné le titre, hein, puisque la pièce même a été jouée. Et même à un festival, un grand festival, avant d'être édité. En réalité, moi, je dirais que on joue la comédie, bien sûr. C'est une pièce qui traite d'un thème tragique avec une tonalité comique, comme le fait souvent le concert party. Mais en réalité, à l'époque, et souvent le concert party, c'est la bouffonnerie. Mais la bouffonnerie, souvent, c'est qui sont les acteurs de cette bouffonnerie à l'époque? C'est les dirigeants, avec leur médaille rouillée, qu'on leur décerne à prix d'or, des louanges dithyrambiques, est-ce que vous suivez, etc. On a assisté à ce spectacle un peu partout en Afrique noire. C'est ça, on joue la comédie. Ce on-là, c'est plutôt les dirigeants qui jouent la comédie. Voilà.
Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir. Je sais que Eric voulait vraiment dire quelque chose. Eric?
Alors, quand tu prends cette œuvre-là, excusez-moi, on joue la comédie, ça. À titre comparatif, hein, de ce que le professeur Doucet a écrit, une comédie sous les tropiques.
Ouais.
Je me dis, Zissou Agbota a écrit un livre de son temps.
Ouais.
Et aujourd'hui, ce qui se passe, je crois que il y a une certaine organisation au niveau de nos élites. Même si les résultats escomptés ne sont pas ce qu'on voit, mais néanmoins, il y a une organisation qui se fait, et cette élite-là, plutôt, est en train de prendre conscience de l'état de nos pays, c'est-à-dire ce que les populations vivent aujourd'hui. Parce que en réalité, c'est cette élite-là qui a toujours été condamnée, qui mène aujourd'hui la réflexion.
Oui, mais j'hésite à te suivre, parce que moi, franchement, ce qui est visible, à l'œil nu, c'est que ces élites sont des acteurs, les grands acteurs de la corruption. C'est pourquoi nos démocraties échouent, c'est pourquoi la dictature perdue. C'est eux. Dans un pays où les élites sont conscientes, où il y a des intellectuels, eh bien, je crois que il n'y a pas de débat sur ces questions-là. Hein? Il n'y a pas de débat. Et souvent dans nos pays, ce qu'on voit, la corruption et ce qu'on fait et que vous dites là, souvent c'est du saupoudrage. Hein, des alibis, des saupoudrages.
Claude, tu fais partie, partie de cette élite qui dénonce aujourd'hui ce qui se passe.
Oui.
Et donc, je dis, s'il y a une élite qui mène la réflexion pour que ça change.
Oui, mais là, là je suis d'accord un peu avec toi parce que. Il y a 10 ans, ou enfin, plus de 10 ans, hein, autant, il y a un temps où je ne pouvais pas dire ce que je suis en train de dire à ce micro. Je ne pouvais même pas. Si j'ai rêvé, je dois passer la pointe la plus proche le lendemain. Et je suis d'accord. Et bon, il y a quelque chose qui a bougé, mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est qu'on ne traite pas une maladie grave avec des doses de des comprimés d'aspirine ou des doses de prévention. Lorsque une maladie est là, c'est une thérapie. Une thérapie de choc.
D'accord.
Ce n'est pas avec des doses de prévention.
D'accord. C'est merci. Merci beaucoup, Claude. Merci. C'est bien écouté. Oui. Jean-Baptiste Tissot, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Oui, ça a suscité effectivement une réaction, le débat que nous sommes en train de faire.
Oui, justement, ça suscite un véritable débat dans la mesure où je l'ai écouté dire que les intellectuels doivent être la tête et la bouche du peuple. Mais contrairement à ce que nous voyons dans nos, la plupart de nos pays, on constate ça avec amertume que ce n'est pas vraiment le cas, puisque beaucoup d'intellectuels ne raisonnent que dans leur pensée, à leur ventre, au matérialisme. Parce que la vérité qui est enseignée, quand on prend les universitaires, la vérité qui est enseignée dans les universités, ce n'est pas ça ce que nous vivons sur le terrain. Et aujourd'hui, l'approche ou bien l'idée qui est répandue, c'est que les intellectuels pensent que, ou bien ils raisonnent dans l'intérêt de leur ventre. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est ce que l'autre là, Feu Kérékou, a appelé les intellectuels tarés. Donc c'est ce à quoi nous assistons dans nos pays actuellement.
D'accord, ok. Merci Jean-Baptiste. Isidore Kolo, bonjour.
Bonjour cher ami, bonjour à toutes et à tous, bonjour professeur. J'ai suivi de loin son développement. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec lui. Et ce nouveau n'est pas n'importe qui. Pour avoir bravé l'interdit à l'époque. Celui qui l'avait suivi, c'est Fekos. Avec sa plume, il avait écrit dans un journal « Démocratie ou démocratisation ». Je voulais parler de Kossi et Fui. Vous vous souvenez très bien. Et c'est ça qui l'a amené des foudres à ce qu'il quitte le pays. Aujourd'hui, les intellectuels ont démissionné. Ils ont le courage de le dire. On a des gros diplômés, mais on n'a pas d'intellectuels. Je suis désolé. On n'a pas d'intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui apporte des réponses à des difficultés de ta société. C'est lui qui donne les directives.
Les orientations.
Les orientations. Aujourd'hui, tous ces intellectuels courent derrière les postes de responsabilité. Particulièrement au Togo.
Ok, merci beaucoup. Claude, merci d'être passé alors dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir. Nous allons nous retrouver le mardi prochain. C'est bien ça le rendez-vous.
Oui, bien sûr. Je crois que deux livres vont suivre.
Oui.
Je peux les rappeler. Il y a le livre Le Fait divin et d'espoir de Rita Menda. Nourrit la même thématique et il y aura une pièce de théâtre de Sekou Kadjamba j'ai dit qui t'a prononcé.
Oui, le nom.
C'est Kadjangambalo, je crois, c'est ça. Hein, et la folie de Salomé.
D'accord.
Hein, où il a parlé un peu des ratés de nos démocraties, de notre démocratie, etc. Tout ça.
D'accord.
On en parlera.
On en parlera. Merci beaucoup, Claude. Et bonne journée chez toi. Alors, chers confrères, nous revenons en studio. Eric, nous restons toujours dans la culture hein, pour parler cette fois-ci alors de cet atelier. Vous écrivez Initiation à la programmation langage Python à l'IFT le 19 février. Et c'est un article, j'ai pris le temps nécessaire alors de lire l'article. Et quand vous parlez alors de langage et Python, on aurait cru à autre chose. Mais finalement, quand je lis l'article, je comprends tout simplement que c'est un langage technologique.
Oui, évidemment, c'est pas le Python, le serpent. Hein, donc... En fait, cet atelier m'intéresse à un double titre. Vous savez, prenez le fondateur de Facebook, Mark
Zuckerberg,
qui a commencé une programmation et il ne s'attendait pas à faire cette découverte inouïe aujourd'hui pour faire parler des millions, sinon des milliards d'humains en même temps sur une plateforme. Mais c'est après avoir commencé ce travail, les gens ont voulu tout de suite acheter sa découverte, il a refusé. Il dit non, je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai eu une idée, je veux que créer une société où tout le monde peut parler en même temps et interagir. Et donc, finalement, il a gardé ça. Et aujourd'hui, on a Facebook, et qui est devenu une plateforme internationale qui lui fait beaucoup d'argent. Il est devenu milliardaire grâce à sa petite découverte. Je dis, cet atelier de langage programmation Python va aider beaucoup les jeunes. Nous disons ici, on n'a pas de travail, les Togolais ne mangent pas à leur faim. Mais lorsqu'il y a ces ateliers-là, il faut que les jeunes y participent. Déjà, le langage numérique, technologique, permet de créer des choses véritablement intéressantes pour nous tous. Aujourd'hui, nous cherchons toujours des solutions pour nous faciliter la vie. À travers ce langage programmation, je pense que les jeunes peuvent tirer beaucoup de choses. Et ça se passe demain, mercredi, à l'Institut français du Togo, à la médiathèque, où on va leur expliquer comment ça se passe. Vous savez que ce langage Python-là a été créé par un Hollandais. Et il s'appelle Guido van Rossum. Aujourd'hui, il est ingénieur. Il enseigne et il travaille chez Microsoft. Parce que après avoir fait sa découverte, après avoir travaillé longtemps chez lui, parce qu'il est en train de transformer aujourd'hui ce que nous sommes en train d'utiliser. Nous utilisons le téléphone portable, nous utilisons l'ordinateur. Tout ça, c'est des programmations. C'est des choses qui ont été, un codage qui a été fait et qui nous permet de pouvoir converser, de pouvoir faire beaucoup d'activités sur le numérique. Je pense que c'est très intéressant. Il faut que les jeunes qui veulent comprendre quelque chose ou apporter quelque chose, il faut qu'ils participent à cet atelier.
D'accord.
À mon avis, très intéressant.
Et nous rappelons que c'est demain mercredi et c'est à l'Institut français du Togo. Et c'est à quelle heure?
À 15h30.
À 15h30. Adam, c'est vrai que en parlant alors de cette question alors de langage de programmation Python et tout, et ça nous rappelle tout simplement les questions de l'intelligence artificielle aujourd'hui avec cette ampleur que prend ce sujet dans le monde autour récemment. C'était la semaine dernière où à Paris même il y a eu un sommet sur l'IA où on comprend tout simplement que avec les opportunités qu'offre aujourd'hui l'IA, on doit s'adapter.
Oui, naturellement. Et justement, lorsque vous prenez l'IA qui est devenu cet outil-là qui nous facilite pratiquement la vie, dans plusieurs secteurs, hein, mais n'oubliez pas également que cela suscite beaucoup d'inquiétudes pour les uns qui estiment que, en tout cas, le matériel ne saurait venir se substituer à l'humain, hein, à des échelles données. Donc, il y a la question de l'employabilité également, où les gens estiment que cela serait affecté. Mais au-delà de tout, nous savons que ce sont des outils. Tout à l'heure, il y a Eric qui parlait donc de Facebook à l'entame. Les gens l'ont vu venir et ont estimé qu'il fallait donc racheter, faire un rachat de cet outil-là, histoire de pouvoir donc le fructifier. Même si vous prenez l'intelligence artificielle, vous prenez Chat, qui a commencé par être menacé par le richissime Elon Musk, qui veut faire le rachat de cet outil pour en tout cas le fructifier. Puisque vous savez, lorsque vous faites une création et qu'en réalité cette création permet à l'humanité de pouvoir donc tirer meilleur profit, en tout cas je pense que vous gagnez plus. Mais lorsqu'on met tout de suite l'argent devant, et justement le créateur de Facebook avait refusé, le créateur de ChatGPT également a refusé. Il dit qu'il faudrait quand même que l'outil cela puisse permettre, et il gagne également, mais fait fructifier le monde entier. Donc je pense que au-delà de s'inquiéter, ce qui est une évidence, il y a lieu également de pouvoir donc rappeler que ces outils-là nous facilitent énormément la vie dans tous les domaines donnés. Donc vous avez parlé de réadaptation. Il suffit véritablement que nous réadaptons, en tout cas, nos usages face à ces outils-là pour ne pas, en tout cas, créer l'amalgame comme si cela venait donc à se substituer ou à changer le cours normal de la vie.
D'accord. Et donc, c'est vrai qu'il y a des opportunités avec l'IA ou la technologie en général aujourd'hui, mais il y a aussi des menaces.
Beaucoup de menaces. Avant de t'en parler, je voulais rebondir sur le développement. Oui, on avait connu des langages binaires. C'était ça. À notre époque, on parlait de langage binaire. Après, on parlait de l'algorithme. Et tout cela contribue au développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui comporte aussi des menaces. Moi, je dis que l'intelligence artificielle est un couteau à tout tranchant. Pourquoi ? Ça facilite certaines tâches. Mais quand vous prenez les deepfakes, où on peut prendre ton image et parler en ton nom, alors que tu n'en es pour rien.
Notre sécurité n'est plus assurée.
Notre sécurité n'est plus assurée. Donc, c'est un couteau à double tranchant. C'est pourquoi il faut avoir des outils pour pouvoir vérifier les contenus médiatiques produits par l'intelligence artificielle. C'est très important et beaucoup n'ont pas cette notion de vérifier. Rien qu'à voir le gestuel par rapport aux paroles, vous comprendrez qu'il y a manipulation de l'information. Et là où nous parlons de éducation aux médias et à l'information, comment on produit un contenu médiatique? Aujourd'hui, tout est artificiel. Vous prenez ChatGPT. Il suffit seulement de lui donner le sujet. ChatGPT va te produire un article de bonne facture. Mais si tu ne prêtes pas attention, ça va véhiculer beaucoup de fausses informations.
Est-ce que ce serait un article d'analyse?
Un article d'analyse, je vous assure que ce qu'on a tendance à nous faire avaler, en réalité, lorsque vous ne vous mettez pas à fond, vous allez véhiculer, comme Isidore le dit, de fausses informations graves, d'ailleurs même, qui peut mettre en danger pratiquement l'idée que vous véhiculez. Et c'est ça, en fait, le problème. Mais en réalité, ChatGPT ne fait que transformer ce qui est écrit. Oui. Et justement, à un moment donné, on va arriver à un niveau où il n'y aura plus de contenu. Ce serait fini. Parce que quelque part, on ne crée plus.
On ne fait que répéter les choses qui existaient.
C'est ce qu'on écrit que ChatGPT répète.
Or, ChatGPT n'a pas l'intelligence.
On donne la parole à Jean-Baptiste.
Pour connaître la connotation et la dénotation, pour pouvoir mettre les concepts dans leur contexte.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste, c'est vrai que ça, au-delà des opportunités, il y a aussi des menaces aujourd'hui. Il y a Isidore qui en parlait. Même Il y a certains boulots ou certains, certains travaux que nous faisons et certains jobs qui vont déjà, par le développement même d'ailleurs de cette technologie, qui vont disparaître.
Oui, justement, je crois que c'est déjà en cours de disparition. Il y a même avant, on avait.
L'expression, c'est un téléchargement. Hein, il faut rentrer.
Puisque, mais là aussi, il faut faire la mise à jour.
Non, dans l'élément de langage, oui, c'est un téléchargement.
Le poste de secrétaire de direction qui existait, par exemple, dans le temps où la secrétaire vient pour taper, appuyer sur la machine à taper. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'ordinateur où. Ces secrétaires-là sont obligés de se conformer à l'ordinateur. Aujourd'hui, on fait le pas vers l'intelligence artificielle et peut-être certains métiers risquent de disparaître. Et aussi avec la numérisation à outrance, par exemple, on prend l'exemple de... comment dirais-je, ceux qui, au niveau de la CET... ceux qui vont de maison en maison pour distribuer.
Les releveurs
oui, se posent aussi avec les nouvelles technologies que la CET aussi et la TDE mettent en place. Et peut-être ces releveurs risquent aussi de perdre dans les années à venir leur boulot avec cette histoire de compteurs prépayés ou de nouvelles inventions sont utilisées en lieu place des outils traditionnels que ces structures utilisaient. Donc, en général, c'est que nous courons derrière la technologie avec de nouvelles inventions pour faciliter la vie à l'humain que nous sommes, mais au-delà de ça, ce sont certains métiers qui risquent de porter le coup de ces découvertes qui foisonnent.
D'accord. Oui, Eric, c'est vrai que tout récemment, je voyais une vidéo, vidéo où j'ai été impressionné.
Avant de continuer, oui. Excuse-moi, c'est vrai que ce dont nous parlons ici, le langage programmation Python, l'initiation à cela, a un objectif, c'est de permettre à ceux qui vont assister à cela, de développer eux-mêmes leur projet. Et donc, c'est pour dire qu'en fait, on est en train de dire que avec l'intelligence artificielle, il y aura beaucoup de boulot qu'on va perdre et tout ça, mais en même temps, on va encore en créer. Et si je prends toujours le cas de Facebook, c'est 87 500 employés aujourd'hui. Donc, c'est énorme. Et donc, je dis, à travers cette formation, cet atelier, l'on peut développer soi-même des projets. On apprend à faire une programmation, on apprend à développer des idées et à apporter quelque chose.
Oui, mais Eric, c'est vrai que...
C'est l'objectif.
Justement, c'est vrai que nous sommes tout à fait d'accord sur cet atelier ou les objectifs alors de cet atelier, mais nous voudrons juste faire une ouverture sur l'intelligence artificielle pour mener le débat. Okay. C'est pour cela que nous le faisons ainsi. Oui, oui. Moi, je disais même d'ailleurs que j'ai été impressionné par une vidéo que j'ai visualisée tout récemment sur les réseaux sociaux où ça se passe en Chine, dans un hôpital à l'heure de la Chine, où les médicaments sont partagés et sont distribués même d'ailleurs par
des robots.
Des robots. Oui. Et tout est fait par des robots. Finalement, est-ce qu'on doit se réjouir ou plutôt en pleurer?
Toujours avec des limites.
Justement, avec des limites.
Oui, parce que ce que l'homme réagit par rapport à chaque situation. Et donc, ce que vous confiez au robot, c'est ce que vous avez programmé qui va se passer. Et donc, vous lui demandez d'aller remettre un médicament. L'homme, quand il prend le médicament et que le patient lui demande « Donne-moi un cachet », il va ouvrir, il va enlever le cachet pour lui remettre ce que le robot ne peut pas faire parce qu'on ne lui a pas inséré cela. Et donc, je crois que, oui, il y a des craintes par rapport au travail que les humains font, mais en même temps, je dis, il y a des limites et que nous pourrons améliorer tout ça. En même temps, celui qui va permettre au robot de pouvoir donner le médicament au patient, lui aussi, il est quelque part en train de travailler. Et donc, il y a un emploi qui est perdu là, il y a un autre qui a récupéré, de l'autre côté, il y a tout ça qu'il faut, il faut juste relativiser, quoi.
D'accord, justement, on va relativiser tout cela. Et merci pour le débat. On va s'intéresser à notre sujet. C'est ce sujet qui faisait même d'ailleurs l'actualité depuis le week-end. Je veux bien parler alors des sénatoriales. C'est vrai, c'est dans l'actualité depuis, mais avec la date du 15 février dernier, on connaît même d'ailleurs les 41 sénateurs qui doivent être élus. On les connaît désormais avec la proclamation des résultats provisoires de la CENI. Eric, vous êtes revenu sur le sujet et vous écrivez à la une de votre journal au futur Sénat, 41 sénateurs déjà élus, 20 à nommer, attendus, unis, sécurisent déjà 34 sièges. Autre journal qui revient sur le sujet, c'est le journal Le Médium. Le Médium qui écrit « Politique sénatoriale 2025, le parti bâti une fois encore à l'épreuve ». Et le journal écrit à la une, bien sûr, et pas, et c'est-à-dire, c'est fini. Et autre journal, c'est Vision d'Afrique. Le journal Vision d'Afrique, Adam, vous écrivez Togo, une avancée démocratique majeure avec les élections sénatoriales. Alors, Adam, quand on prend ce sujet tel que vous l'avez évoqué, finalement, avec votre analyse, c'est une avancée.
Oui, c'est une avancée à partir
surtout
du moment. Oui, à partir du moment où tous les acteurs se sont engagés à faire vivre le pluralisme institutionnel, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Même si il y a des certains critiques qui émergent au regard de cette cinquième République, etc. Nous savons qu'il y a eu une sorte de pluralisme parce que il y a des partis politiques qui sont engagés dans cette course-là. Et vous avez vu les résultats. Unis ne s'est pas arrogé tous les sénateurs. Il y a eu des compromis. Il y a eu également des avancées liées, en tout cas, aux élections passées qui ont permis à certains acteurs politiques, majoritairement de l'opposition, de pouvoir donc s'unir pour faire en sorte qu'ils gagnent, en tout cas, certains sénateurs. Donc, c'est la conclusion que moi, j'ai pu tirer de ces élections-là. Mais parlant donc d'avancées démocratiques, comme je l'ai dit, ils sont accordés sur, en tout cas, faire rayonner le pluralisme institutionnel, d'autre part. Mais c'est une élection également ouverte et disputée, comme je l'ai dit tantôt, sur certains paramètres. Donc, il y a eu une organisation électorale de plus en plus professionnelle dans la mesure où nous avons vu la CENI à quelques... C'est vrai que l'environnement est pu, en tout cas, le temps étant donné que les sénateurs, ce n'est pas comme les élections que nous connaissons, surtout l'étendue territoriale, les grands électeurs, etc. Il y a eu un professionnalisme au niveau de la CENI. Nous avons constaté qu'il y a moins de contestations liées donc à ces partis politiques qui ont participé à ces élections-là. Donc, c'est dit tout simplement que c'est une marche inexorable vers la consolidation démocratique, comme nous l'avons dit.
D'accord. Eric, quelle est l'analyse que vous faites d'abord des résultats de ces élections?
Nous sommes à l'étape des résultats provisoires.
Tout à fait.
Qui ont été donnés par la CENI. Et donc, on attend la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs. Et après maintenant, on aura les 20 sénateurs qui vont être nommés par le chef de l'État pour que les 61 sénateurs soient mis en place pour le Sénat. Et moi, ce que j'ai remarqué d'abord par rapport à ces élections, c'est que c'est pour la première fois que des Togolais suivent une élection sénatoriale. Et donc, on parle de grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux et régionaux qui constituent le corps électoral.
Et ils sont au nombre de 1706.
1706. Alors, répartis sur toute l'étendue du territoire.
Tout à fait. Sur les 9 millions que nous constituons.
Allez-y, Eric.
Oui. Et je pense que cette élection, d'abord, n'a pas eu autant d'engouement par rapport à ce que nous avions vu pendant les élections législatives, élections couplées législatives et
régionale.
Et donc, je crois que pour la population, c'est une élection qui se passe en vase clos. Et justement parce que la communication n'a pas été véritablement cela. Il faut le reconnaître. Les gens ont voulu expliquer aux populations que nous aurons désormais deux chambres à l'Assemblée et au Parlement, mais quel est le rôle des sénateurs par rapport aux députés? Et donc, quand on a dit élection, mais vous savez que jusqu'à la dernière minute, hein, jusqu'à vendredi, les gens se demandaient, mais où est-ce qu'on a fait les campagnes? Comment ça s'est passé? Parce que c'est une première. En réalité, il fallait quand même que les populations regardent, que les populations suivent, ou même que les populations lisent ce qui s'est passé. Mais on a eu comme l'impression que c'est pas divulgué, hein, les gens, on ne sait pas quel genre de campagne a été faite pendant ces élections. Alors, il faut qu'on se prépare. Lorsqu'il y aura encore ces élections dans 6 ans, je crois.
Justement, 6 ans.
Dans 6 ans, il faut que les populations comprennent le fond, hein, de ce scrutin.
D'accord. Isidore, même question. Quelle est l'analyse que vous faites alors des résultats provisoires de ces élections?
Non, ça me conforte dans ma position.
Et votre position, c'est quoi?
C'est-à-dire que c'est unir va tout rafler. Heureusement qu'ils n'ont pas été assez gourmands cette fois-ci pour concéder 7 places. C'est bien ça, non?
Oui, 7 places aux autres partis indépendants.
Indépendants, non. Ceux qui ont allé commander. Ceux qui ont allé commander.
Mais sur la liste, c'est bien les indépendants.
Non, permet que je puisse... Il y a aussi les partis politiques.
Justement, il y a des partis politiques.
Oui, qui sont allés faire les courbettes. C'est ça. Est-ce qu'il y a véritablement une élection? Non, on leur a concédé ça. C'est tout. Et ça ne me fait ni chaud ni froid. Je reste dans ma position, droit dans mes bottes, en disant que ce qui s'est passé là, ce sont des simagrées. C'est juste pour nous pousser à aller dans cette 5e République. Dans le péché mignon réside à l'adoption de la 5e la constitution de la 5e République sans nous aviser. En principe, toute nouvelle constitution doit passer par voie référendaire. Ça, c'est le péché mignon et qui va toujours poursuivre cette 5e République. L'autre péché mignon, mais celui à qui on va consacrer, hein, tous les pouvoirs, n'est pas un élu. Visitez, hein, tous les régimes parlementaires. Le premier ministre que nous appelons aujourd'hui, président du conseil des ministres, doit être un élu. Tel n'est pas le cas au Togo. On nous a construit un monstre qui va nous avaler. Pourvu que l'histoire ne me donne pas raison.
D'accord. Jean-Baptiste, en voyant la configuration de des résultats lors de cette élection, est-ce que vous avez été surpris de voir Uni qui a 34 sièges au Sénat et les autres partis ont 7 partis politiques et aussi indépendants?
Bon, je crois que la configuration.
Oui, justement, la configuration. C'est vrai que pour ce qui il reste la nomination alors des 20 autres.
Oh, mais je crois que le débat, même avant de répondre à ta question, je crois que ceux qui parlent d'avancée...
Oui, s'il te plaît, oui.
Dans le micro. Ceux qui parlent d'avancée démocratique, je ne pense pas que si on fait un coup d'État constitutionnel et on organise une élection après, on peut parler d'avancée démocratique. Hein. Ça, la question reste posée. Quand on fait un coup d'État constitutionnel, et sans avoir peur, sans considérer un peuple, Et puis on dit qu'on fait une avancée démocratique. La question reste posée. Maintenant, revenons à l'élection sénatoriale. Est-ce qu'il y a eu élection? La question aussi reste posée.
Pour vous, il n'y a pas eu élection?
Ce n'est pas une élection.
Qu'est-ce qui s'est passé le 15 dernier?
Vous savez, c'est une comédie. C'est une véritable comédie.
C'est une comédie.
Oui, c'est une comédie parce que, vous savez, quand vous voyez ce que les gens ont fait le jour-là, je ne pense pas que ça soit réellement...
Qu'est-ce que les gens ont fait?
Ah oui. Juste quand, en pleine capitale, on fait un port-export pour aller voter pour des gens qui n'ont même pas de militants, qui n'ont pas quand on prend... Et imaginez, vous n'avez pas de votants potentiels et que par consigne, on amène des gens de quelque part, ils viennent voter pour vous. Je crois que ça, là, la question reste posée. Les élections qui ont eu lieu dans ce pays-là, les observateurs, on en a cherché, on n'en a pas vu. Les membres de CENI, ou bien de CENI qui ont défilé le jour-là. Combien de fois ils prennent leur temps pour défiler dans les bureaux de vote lors des élections passées? Combien de fois? Les élections législatives et régionales passées, les gens sont venus dans les bureaux de vote avec les bafana remplis de bulletins pré-votés. On a appelé les membres, les présidents de CELI. On les a appelés. Ils n'ont pas réagi. Et on a avalé tout ça là lors des dernières élections législatives et régionales. Et aujourd'hui, on vient jouer à la comédie que tous les responsables d'organisation, ils ont sillonné de bureau de vote en bureau de vote pour suivre les élections. Tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. La CNDH a largué ses militants. Combien de fois les responsables de la CNDH ou bien
des militants de la CNDH?
Non.
Des responsables.
Des responsables de la CNDH,
on les a vus circuler de bureau en bureau la dernière fois. Donc c'est pour dire que au moment où on les attendait, on les a pas vus. Mais aujourd'hui, on fait ce théâtre là devant le peuple qui dit qu'on a organisé les élections sénatoriales. La question reste vraiment posée. Sinon.
C'est un théâtre, est-ce que ce n'est pas trop dit?
Vous savez, je pèse mes mots parce que imaginez. On ne force pas une marche. La population a ses droits qu'on doit respecter. La constitution, le peuple a adopté une constitution, 4e République. Pourquoi maintenant on force les gens, on force une population pour lui imposer une constitution? C'est une imposition.
Je voulais ajouter juste une seconde. Vous savez, je reste encore conforté dans ma position que les élections ne sont pas le baromètre de la démocratie.
Loin de là.
Les élections ne sont pas le baromètre de la démocratie, ni la représentativité d'un parti politique au Togo.
Les élections, c'est également un critère de légitimité.
Évidemment. Évidemment.
Oui,
je pense que nous retournons à un débat sur notre constitution. Notre constitution a des articles et ce sont des constitutionnalistes qui sont passés pour dire qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Lorsque des gens, on me dit que pour changer la constitution, c'est par voie référendaire, je suis parfaitement d'accord. Mais en même temps, il y a un article dans la Constitution qui dit que les 4/5 des députés peuvent aussi modifier...
C'est une révision.
C'est différent.
La sémantique est très importante.
On laisse Eric terminer.
Oui.
La sémantique est très importante.
Laissez Eric terminer. C'est là où l'esprit de la loi vient. Quand on est politique... Lorsque la loi nous intéresse, nous arrange, on l'applique. Non. Et lorsque l'esprit de la loi nous arrange également, on l'applique. C'est toujours de cette manière ça se passe. Et donc, on avait déjà dit que notre constitution de 92 a également des écueils qu'il faut corriger. Ça a été dit depuis longtemps. Mais... parce qu'on a laissé tout ça, aujourd'hui, tout le monde subit. C'est très simple à comprendre.
Je crois qu'il y a des valeurs et des mécanismes qui fondent la vitalité démocratique. Je ne crois pas que le Togo puisse donc réinventer la roue. Donc, lorsqu'on parle donc de ces institutions, je pense que ce n'est pas trop écarté ou pas écarté de ces valeurs-là qui fondent la vitalité de la démocratie. Donc, je pense que la démocratie, comme telle définie, c'est une marche. Et justement, parlant donc de ces élections qui doivent donc fonder ces institutions, c'est justement multiplier ces mécanismes-là qui va faire la vitalité de notre démocratie qui est donc mise en avant. Mais si aujourd'hui, on tend à nous servir ou à faire la leçon comme si le Togo réinventait la roue, moi je suis, je reste en tout cas susceptible donc à cette question-là. Je pense que, est-ce qu'il faudrait néanmoins redéfinir la démocratie au Togo, qui peut être considéré comme étant une invention, je n'y crois pas. Donc je pense que ce sont ces valeurs-là qui sont en train d'être menées petit à petit.
Quand on reste toujours dans cette question alors de la 5e République, c'est vrai, il y a une intervention du ministre Bawara tout récemment, et avec cette intervention, il y a le journal Le Correcteur qui est revenu sur cette intervention, c'est-à-dire le ministre a donné les bienfaits, les opportunités qu'offre alors cette 5e République, et le journal Le Correcteur écrit les divagations de rassure la construction de la 5e République. Monsieur le ministre, les Togolais ne sont pas dupes.
Moi, je dirais élucubration de Gilbert Bawara. Je ferme la parenthèse. Venons-en à la définition de la démocratie. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que le peuple a été consulté pour la mise en place de cette 5e République? C'est toute la question. C'est le péché mignon de cette 5e République. Je n'ai rien contre la 5e République, mais est-ce que on a demandé l'avis du peuple?
Non. Ceux qui ont voté, ceux qui sont à l'Assemblée nationale,
ils n'ont pas cette qualité.
Ils n'ont pas cette qualité.
Il nous reste pratiquement 5 minutes. On va avancer.
On n'a pas cette qualité.
On va toujours rester sur ce débat. On reviendra là-dessus. Il n'y a même pas de souci. Alors, Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous avez appris quand même que Madame Nathalie Bito n'est plus à la tête alors de l'hôtel Sarakawa. C'est vrai, nous avons suivi les informations sur les médias en ligne et tout. Et on nous apprend que désormais c'est le commissaire lieutenant-colonel Komlan Edem Agbenigan Goumedjoué qui remplace Madame Bito à la tête alors de cet hôtel. Mais c'est vrai que depuis un temps, depuis 2016 même, Madame Bito était à la tête alors de cet hôtel. On nous a toujours parlé de sa bonne gestion alors de cet hôtel, ce qui a fait que tout récemment même on lui a octroyé, enfin on lui a donné l'hôtel Les Bénins pour la réhabilitation. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a le droit quand même de savoir, Jean-Baptiste.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la question mérite d'être posée, puisque ceux qui disaient qu'elle gérait bien, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et d'un seul coup, un ultimatum, si on peut le dire ainsi, de 48 heures lui a été donné afin qu'elle puisse rendre le tablier au niveau de cet hôtel qu'elle a dirigé pendant presque 9 ans. Donc la question mérite d'être posée. Et au-delà de ça, je crois qu'il y a à peine un mois et demi, où elle a reçu le prix de meilleur manager de l'année,
voilà,
par cette institution qui note les gens là. Donc tout ça là reste des questionnements, puisque aujourd'hui, et c'est ce que nous demandons en tant que peuple, c'est que les sociétés d'État soient gérées vraiment à bon escient. Et cet hôtel dont on parle, l'hôtel Sarakawa, fait partie
du patrimoine
de l'État. Et c'est un hôtel qui date de beaucoup d'années déjà. Et donc, aujourd'hui, on lui a confié une gestion et on estime qu'elle gère bien l'hôtel. Et en plus de ça, même elle a été aussi désignée comme administrateur de la CCI Togo, et elle a été là-bas pendant presque 3 ans avant qu'on organise les élections au niveau de la CCI pour nommer, élire du moins un nouveau président. Donc tout ça là fait croire aujourd'hui que parfois les éloges qu'on fait à certaines personnalités ne sont pas des éloges sincères, parce que parfois on essaie d'édulcorer la réalité même du terrain. D'accord. Puisque quand on te donne un ultimatum, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion quelque part.
Merci beaucoup. Oui, Adam, c'est vrai qu'on parle de mauvaise gestion, c'est ce que certains évoquent, mauvaise gestion, mais au même moment, la bonne gestion quand même de la dame, enfin de ses hôtels, a été toujours évoquée.
Oui, vous savez, moi je pense que quelque part, on parlait tout à l'heure de vouloir son servi. Lorsque vous ne scrutez pas à fond, en tout cas les informations, vous risquez donc d'informer maladroitement donc l'opinion. Je pense que sur cette question-là, cette question est revenue moultes fois. Remontons un peu l'histoire. Vous savez, la rupture du contrat avec le groupe Accor qui gérait donc le terre par le passé, c'était dû à quoi? C'était dû au fait que dans les clauses du contrat, il devait donc avoir le renouvellement, l'embellissement, etc., ce qui n'avait pas été le cas. Et prenez, lorsque la dame a commencé donc par diriger l'hôtel, en tout cas, pour un Togolais lambda, je ne veux même pas rentrer donc dans les rapports. Prenez tout simplement un Togolais lambda qui visite aujourd'hui l'hôtel Sarakawa. Ça saute aux yeux. Vous allez voir, depuis, je pense que tout le temps que le groupe Accor a eu donc à gérer l'hôtel là, et lorsque la dame est venue, ce qu'elle a eu donc à ajouter, ce qu'elle a eu à ajouter à l'hôtel Sarakawa, aujourd'hui l'hôtel Sarakawa a pratiquement tout, que ce soit en termes de personnel, d'infrastructure, et tout, il y a eu. Et maintenant, nous revenons donc au rapport. N'oubliez pas également que ce n'est plus une gestion opaque. Hein. Vous prenez que ce soit les autres hôtels, même hôtel 2 février, il y a des rapports. Des rapports sur même les dividendes et puis les chiffres d'affaires qui sont donc faits. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous a même dit que la renouvellation de l'hôtel Les Bénins, ancien hôtel Ibis, c'est dû aux bénéfices faits par l'hôtel Sarakawa. Et justement...
Mais c'était 3 milliards.
Tout à fait. Faits par l'hôtel Sarakawa. Et les gens même ont eu donc à poser la question du personnel. Il a dit, c'est quand vous n'avez pas l'ambition que vous pensez que le problème, c'est le personnel. En réalité, lorsque vous dirigez bien, le personnel ne peut pas vous causer de problème parce que c'est vous qui dirigez, c'est vous qui imprimez la marque. Mais justement, je pense que lorsque vous prenez l'article que vous avez évoqué tantôt en parlant de la visite de San Yaya, bon, et lorsque vous prenez la temporalité, bon, qu'est-ce que San Yaya a à voir dans la gestion de l'hôtel Sarakawa? On nous a dit même avant, mais la nomination, c'est dû au ministre de l'économie, le ministre de l'économie d'alors. Est-ce que c'est San Yaya? C'est pas San Yaya. Ça vous a dit quelque part que.
C'est lui.
Non, le ministre de l'économie. Je vous parle de la temporalité.
Oui, tu dis celui qui l'a nommé.
Non, je dis c'est San Yaya. On dit, lors d'une vie, San Yaya n'est plus le ministre de l'économie.
Voilà.
Et nous le savons tous. Je parle de la temporalité. Ça vous a dit que ce n'est pas San Yaya. Mais si San Yaya a fait une visite, San Yaya ne peut pas révoquer la dame de l'hôtel Sarakawa. D'abord, c'est une gestion, en tout cas, du ministre du tourisme. On n'en a plus. Entre griffes, donc le ministre de l'économie qui doit en réalité se prononcer sur la question, c'est le ministre Barcola. Donc ça vous a dit quelque part, si on nous sert cela, ça vous a dit il y a trafic d'influence.
D'accord.
Et ce n'est pas le cas. Donc je dis que aujourd'hui, les gens alimentent des fausses informations. Quelqu'un a fait 8 ans, c'est tout à fait normal, on ne lui a pas retiré l'hôtel Le Bénin. Elle a lui a fait ses preuves au niveau de Sarakawa. On lui laisse la main encore d'aller faire ses preuves à l'hôtel Le Bénin, qu'elle a eu donc à renouveler. En tout cas, la dame devait avoir des félicitations, mais les gens ont pris ça comme si c'était donc de la mal gestion. Or, il n'y a aucun rapport qui prédéfinit qu'il y a eu mauvaise gestion. Je vous dis, retournez voir les rapports.
D'accord, ok. Ouais, Isidore, est-ce qu'on peut penser ou on aura peut-être l'impression qu'il y a des mains noires qui voudraient juste quand même que la dame quitte là?
Je ne lis pas dans la boule de cristal. Il faut en savoir ce qui s'est passé. Mais j'ai été surpris. Quoi qu'on dise, elle a fait un bon boulot là-bas.
Tout à fait.
Depuis et la gestion par le groupe français Accor, qui n'investissent pas dans la rénovation, l'entretien même de l'hôtel. Un, le courage de le dire. Pour le reste, je ne sais ce qui a prévalu pour qu'on les jette de là. Mais je dis qu'il y a quelques hôtels qui symbolise l'histoire politique du Togo. Autel le Bénin, pas le Bénin. Mmh. Le Bénin, prends-en soin. Le Bénin, ce n'est pas le Bénin. Prends-en soin. Autel Tropicana, aujourd'hui qui a carrément disparu.
À Veposo.
Ça n'est réfugié.
Autel Sarakawa, qui a été rénové par la dame Bito Nathalie. Autel de la paix, c'est aussi un symbole, mais qui est devenu maintenant un squat. Les gens ont squatté là-bas. Donc, véritablement, il faut que ce ministère qui aujourd'hui n'existe plus, ou est mis sous éteignoir au niveau de la primature, si je ne m'abuse, ou bien c'est la présidence, il faut revoir le cas de l'hôtel de la paix aussi.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Isidore. Oui, Eric, c'est vrai que finalement, on ne comprend plus rien.
Oui, nous avons eu l'information hier comme quoi il y a eu limogeage et remplacement avec effet immédiat de Madame Bito, etc. Alors, il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. D'abord, qui a nommé Madame Bito, administratrice provisoire de l'hôtel Sarakawa, et aujourd'hui, qui l'a révoqué? Alors, est-ce qu'un ministre en fonction peut-il se permettre de limoger quelqu'un de cette trempe-là sans avis du chef de gouvernement?
Donc l'institution ne dépend même pas de son
département. Non, ma question est de savoir, est-ce que c'est une décision du ministre Sani Yaya ou c'est une décision du gouvernement par l'intermédiaire d'un ministre qui est censé gérer aujourd'hui le tourisme dans le pays?
La question mérite d'être posée.
Maintenant, que reproche-t-on à Madame Bito? Il faut forcément un rapport pour nous situer. Alors, les gens disent que le ministre était allé avec un groupe soi-disant envoyé par la présidence. Est-ce que comme ministre, comme Sani Yaya, peut-il se permettre un tel truc, aller sur un site s'il n'a pas été envoyé par s'il n'a pas été mandaté par le gouvernement ou le chef de l'État, puisque dans ce qui a été dit, c'est que quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils sont envoyés par la présidence, et c'est là Madame Bito informée a demandé à ses collaborateurs de ne pas permettre que ce que le ministre était venu faire avec ces autres-là se fasse. Je pense que il y a beaucoup de non-dits.
Tout à fait.
Et lorsque nous allons fouiller,
est-ce que c'est l'inspection d'État?
Non, c'est un groupe. On dit un groupe de blancs. Et les gens disent que c'est des Libanais, d'autres disent que c'est des Français, etc.
Je pense que
on accuse aujourd'hui le ministre Sani Yaya, je pense qu'il ne peut pas se permettre cela étant encore au gouvernement.
D'accord, très actif. Mais merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. C'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 115 et nous écrit aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous écrire également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Notre premier auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Non, décidément, je pense. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Oui, comment vous allez, Pascal?
Oui, ça va. Et chez vous?
Oui, comment vous allez?
Oui, votre nom
oui, c'est... bonjour. Comment vous allez? Oui, comment vous allez?
Décidément, il y a interférence.
Merci beaucoup. C'est Tonton V depuis Amoutier V.
Oui, allez-y.
C'est Tonton V depuis Amoutier V. Oui, je vais bien. Oui, je voulais intervenir par rapport à la dernière sujet, dernier sujet que vous avez abordé, le sujet de l'hôtel Sarakawa. Bon, je voudrais dans un premier temps vous inviter à faire un tour à l'hôtel Sarakawa et interroger le personnel pour voir si ça a été une joie pour 90%, parce que l'hôtel Sarakawa, sans mentir, a perdu beaucoup de professionnels, soit en démission, soit par un renvoi abusif. Et en plus de cela, c'est vrai, elle a fait un travail formidable de rénovation, mais sans vous mentir, excusez-moi, appelons un chat un chat. Elle n'a aucune notion en hôtellerie. Et elle dirigeait l'hôtel Sarakawa comme son cabinet d'audit. Ça ne se passe pas comme ça dans une entreprise hôtelière. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on vous nomme administrateur ou administratrice en droit, vous n'avez que 6 mois renouvelables 2 fois. Mais elle est là, ça fait 9 ans. 9 ans. Et moi, personnellement, je n'ai rien contre elle, mais je trouve quand même que l'État a pu prendre une bonne décision en la dégageant de là. Merci.
D'accord, merci, Tonton V, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la presse de ce mardi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp. C'est le 90, 45, 78, 57. C'est sur ce numéro. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, Évangéliste Senghor.
Comment vous allez?
Ça va, il y a un bruit à côté de vous. S'il vous plaît, vous pouvez
ouais,
attirer
ouais.
Le volume
bon,
de votre
radio. Je tiens à jeter ou à remercier tous vos confrères qui sont dans la vérité. Vraiment, c'est ça. Parce que vous savez, je dis souvent que un journaliste, les journalistes comme ils sont comme nous, les hommes de Dieu, toujours dans la vérité. Sinon, comment ça peut comprendre dans une république où le chien à bois, la caravane passe, on ne considère même pas le peuple. Aujourd'hui, c'est vrai, au contraire, on a dit tout à l'heure que c'est un théâtre de construction de ce qu'il vient de faire. Mais en toute chose, vous savez, aucun pays n'appartient pas à un homme, c'est pour Dieu. Aucun pays, en commençant par le chef de l'État, tous sont l'État-major, ils sont institués par Dieu pour le bien de la nation. Je le réitère encore, pour le bien de la nation, que la population togolaise mange à leur faim, qu'ils soient bien traités. Toutes les ressources du pays appartiennent à la nation. Mais aujourd'hui, ça ne va pas au Togo. Mais en toute chose, c'est des conséquences comme votre confrère vient de le dire tout à l'heure. On ne peut pas quand même cacher, ne pas dire la vérité. Non, on ne doit pas cacher. La vérité ne se dit pas dans le cercueil. La vérité ne se dit pas dans le cercueil. Nous sommes là pour un petit temps. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, ben, nous, tout ça là, un jour, ça va rester, nous allons partir. Donc il faut que le chef de l'État, le dirigeant de cette nation, soit que ce qu'il vient de faire comme les croix là, c'est un peu de quoi là, ça n'est pas que eux, mais il y a des conséquences derrière. Je m'arrête ici et je vous bénis.
D'accord, Évangéliste Senghor, merci pour votre intervention. Bonjour les amis, juste pour dire que la démocratie est une valeur universelle. Celui qui l'a détruite doit être dénoncé. Concernant l'affaire de Madame Bito, c'est de la jalousie, l'envie, c'est un montage de tout ça. Et elle est compétente et battante, elle a fait ses preuves partout. Vous savez, les gens viennent dans les hôtels au nom du chef de l'État, faire tout et ne règle pas les factures. Ça ne fait pas évoluer les hôtels et ça devient une dette. C'est Dieu qui est fort. Bonne émission, c'est Monsieur Nyamaku. Allô?
Dieu ne peut rien faire si nous-mêmes ne nous ne voulons pas. Nous ne levons pas la main. C'est maintenant Benoît.
C'est Benoît Dagoué. Oui, Benoît, allez-y.
Vous savez, vous avez parlé des intellectuels carrés. C'est vrai. L'autre fois, j'ai eu du mal. Ça m'a fait beaucoup de maux de tête. Un professeur qui est venu sur un plateau dit que, et avant de venir, il a vu que les 54 États de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique, 29 ont fait un Sénat. Il ne nous a pas dit, parmi les 29 là, qui ont un Sénat là, est-ce qu'ils ont, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de chemin de paix, ils n'ont pas de, comment je vais dire, il a parlé de Rwanda. Avant de venir, la CDT, c'est pas pour venir. Écoutez, mais bonne journée.
Mais non, bonne journée à toi aussi, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sûr que c'est le numéro que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour.
Tout à l'heure, tu m'avais piqué et ça m'a brisé, ça m'a brûlé deux unités.
Voilà. Oui, madame, ici.
C'est-à-dire que tu avais pris, mais tu as pris celui qui vient de passer encore. Bonjour, c'est ici. Voilà. Vous avez parlé du même débat. Moi, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, qu'a-t-on fait? Qu'est-ce que le Togo ou les Togolais nous avons fait de mal au président pour qu'il nous traite ainsi? C'est-à-dire, nous sommes honnêtes. Qu'est-ce qu'on a fait au président là pour qu'il nous refuse la liberté, la démocratie, l'alternance? Il gère la République comme son bien, il fait ce qu'il veut, et puis il organise des élections, il change la constitution. Le seul parti qu'on a qui dit qu'on est au boulot, on va vérifier de qui on va travailler décemment, c'est la constitution du pays. Il l'a tronqué jusqu'à la brûler carrément pour un autre truc. Et puis des gens trouvent normal pour justifier ça. Les gens trouvent normal. Pour venir à Bissau, une celle-là, qui cumule aussi. Tout le monde cumule dans le pays. Personne ne travaille, sauf eux, sauf la minorité. Hein? Et c'est pas normal. La constitution, les droits de l'homme, dit de travailler décemment, et gagner, machin, et puis, et sécurité sociale, allocation conséquente et tout. Ils bloquent tout, et qu'est-ce qui, le drame, c'est qu'ils brindent avec ça, avec le pied du pays. Sans aucun développement. Bito avait cumulé aussi. Et puis, pour dire, pour finir, est-ce que c'est normal que les soldats dirigent toutes les institutions de la République? Est-ce que c'est normal, selon vous, là? Les soldats, on a tous droit au service militaire. Autant qu'à faire, que chacun fasse son service militaire pour travailler aussi et vivre gratuitement comme eux. Les militaires sont partout. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution ainsi?
D'accord.
Merci.
Ok, oui, merci beaucoup, madame, ici, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô? Oui, Basile, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour, Basile, comment vous allez?
Ah, vous allez revoir la technique un peu. Moi, le premier qui ne vous ne receviez pas, j'étais déjà en ligne pendant 2 minutes, hein.
Oui, mais Basile.
Comme vous n'arrivez pas à le recevoir, moi, on m'a déjà reçu.
Basile, vous êtes déjà en ligne, s'il vous plaît, allez-y.
D'accord, merci à vous. Je salue tout le monde, vos collègues en studio, tout ça là. Mais nous, on ne va jamais se lasser de dire à ceux qui nous régentent, qui ne nous gouvernent pas. Ça, je vous le souligne toujours. C'est par force des armes. C'est-à-dire que si qui veut, qui ne veut pas, c'est nous qui sommes là. Il n'y a pas de problème pour ça. Pourquoi est-ce que ça, vous avez compris que les Togolais sont des pacifiques. Eux, ils ne veulent même pas aller quelque part chercher des armes, tout ça là. Et ils sont soumis à vous. Pourquoi vous ne voulez pas leur, c'est-à-dire donner le minimum de pouvoir vivre? C'est ce que moi je vous dis. C'est ce que je vous dis. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas?
Allô, Basile. Allô, Basile.
Oui.
Vous nous avez suivi tout au long de l'émission?
Oui, je viens de dire d'autres qui défendent.
D'accord, merci beaucoup, Basile. Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Mais il est très important. Il faudrait quand même qu'on fasse cette mise au point. Que quand nous faisons le débat, nous discutons des sujets en studio. Et quand vous appelez, l'essentiel, c'est de se prononcer également sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. C'est pourquoi nous demandons que vous nous suiviez de bout en bout avec grand intérêt pour que nous arrivions à nous comprendre. C'est très important. Nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien, bonjour, Plateau.
Oui, allez-y.
Bon, moi, ma question, que nous sommes déjà dans la cinquième république, je crois, non? Ou bien il reste encore un peu?
Allez-y, Monsieur Gado.
Bon, d'accord. Moi, ce que je voulais demander, vous les journalistes, est-ce que dans la cinquième république, on a écrit dedans d'arrêter ceux qui tuent le pays, la minorité, que le chef de sa même a remarqué? Si c'est comme ça, ok, nous adhérons. Parce que la 4e République, je crois que ce n'était pas écrit dedans. C'est pour qu'on puisse, on ne les arrête pas. Il a fait 3 gates, Covid gates, hôpital gates, Bon, si cette constitution, on va arrêter ceux qui tuent le pays. Donc, moi, j'adhère. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce jour. Adam, vous avez écouté les uns les autres se prononcer. Votre réaction?
Non, moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le premier auditeur qui nous a donné des éléments supplémentaires en ce qui concerne la gestion de l'hôtesse Arakawa. Vous savez, nous sommes à l'école de tous les jours. Et je pense que sur ces interventions, comme vous avez vu, quand même, à faire le recadrage aux auditeurs, nous avons également appris, nous avons des éléments supplémentaires qui nous permettent en réalité de pouvoir davantage nourrir nos analyses. Et moi, j'aurais bien voulu que les auditeurs puissent donc se prononcer sur ces questions, comme vous l'avez dit. Cela nous enrichit et cela permet l'enrichissement également du débat. Donc moi, je suis d'accord avec vous et je prierai, puisque pour nous, nous n'avons pas l'impression d'avoir, en tout cas la science infuse, la vérité absolue. Donc, il appartient aux auditeurs de pouvoir intervenir sur ces sujets-là. Cela nous renseigne également davantage.
D'accord, merci beaucoup, Adam. Eric?
Oui, je pense que les sujets politiques intéressent beaucoup les concitoyens. Et c'est de bonne guerre. Toutefois, je me dis qu'il faut toujours traiter ces sujets-là avec... moins de passion et écouter les autres aussi pour pouvoir donner ce que vous aussi vous avez. Et pour finir, je pense que le sujet sur l'hôtel Sarakawa, ça a commencé avec des informations qui vont tomber par-ci par-là, mais il faut savoir raison garder et fouiller mieux et attendre, parce que ça ne va pas se faire comme ça. Il y aura des rapports, il y aura des communications qui vont se faire officiellement autour de cette affaire. Et aujourd'hui, je dis oui, Madame Bito a été laissée, mais limogeage, tout ce qu'on dit, est-ce que c'est réellement cela? Le ministre Sani Yaya est accusé d'avoir fait un abus de confiance. Je ne le crois pas, parce que c'est un ministre de la République. Il a quand même le chef de gouvernement, il y a le président de la République qui doit forcément l'avoir mandaté pour faire ce travail-là. Et je crois que tout ça, on aura toutes ces informations-là avec un peu de patience.
Et d'accord, justement, sur la question alors de l'hôtel Sarakawa, et il y a un auditeur qui nous écrit, bien sûr, et quand vous parlez, vous disiez tout de suite concernant surtout limogeage ou jeter et tout cela, on ne sait pas trop. Voilà. Il y a un auditeur qui écrit, salut Club de la Presse, moi, je ne m'inquiète pas pour Madame Bito, il y a des sénateurs à nommer dans une autre tâche. Donc, on l'attend là-bas. Oui, mais Jean-Baptiste?
Oui, je crois que, pour revenir au sujet, La question concernant le colonel qu'on a pris pour remplacer Madame Bito, nous ne savons pas. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui a vraiment évoqué le sujet concernant l'hôtellerie. On ne sait pas si ce colonel a des notions d'hôtellerie pour pouvoir remplacer un expert comptable. Donc, celui qui l'a nommé peut-être connaît ses compétences. Nous, on ne va pas le juger. Mais tout compte fait, je crois qu'il est quand même temps qu'on essaie, que les décideurs politiques essaient de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que, vous savez, il ne faut pas nommer parce qu'il faut. Parce qu'il y a un bon bout de temps, nous observons des nominations. On n'a rien contre eux. Hein, des corps habillés qui sont nommés à certains postes et qui suscitent vraiment des interrogations. Parce que quand on estime que ce sont des civils qui sont quand même habilités à jouer un certain nombre de postes et qu'on nomme les militaires, les corps habillés, je crois qu'il y a question à s'interroger. Okay. Et surtout que les ailes que certains parmi eux sont en train de faire dans certaines préfectures, d'accord. Ce n'est pas bien comme préfet.
Oui, Isidore Akolon.
Non, ce n'est pas la première fois qu'on nomme un colonel. Hein. Ce fut le cas pour le 3 février, vous vous souvenez. Mais ça n'a pas fait long feu. Est-ce qu'ils ont les outils, les compétences pour pouvoir gérer un hôtel? Non, ce n'est pas une caserne. Je suis désolé. Bon, je ne peux pas juger de la compétence de celui qu'on a nommé là-bas. Mais un militaire, un colonel, est fait pour d'autres tâches. Il y a des gens plus compétents qu'on peut nommer là-bas.
D'accord.
Et il faut faire avant de parce que Bito était là pour administratrice et provisoire. Ça a trop duré. Est-ce qu'on a fait un audit? L'état des lieux de l'hôtel même, puisque c'était en déconfiture avancée avec le groupe Accor. Est-ce que l'établissement ou les bâtiments sont effectivement renouvés? Toutes ces choses-là doivent rentrer en ligne de compte.
Okay.
Et je voulais faire un coup de gueule
rapidement,
oui, parce que notre à l'endroit du directeur du CEG et des étoiles. Chaque fois que je passe par là, à chaque sortie, c'est ce que des bagarres entre élèves, groupes organisés.
Et on a eu même d'ailleurs à séparer certains élèves.
Ce n'est pas normal. Je sais comment, qu'est-ce qu'ils font pour gérer ou canaliser l'énergie de ces élèves-là. Chaque fois que je passe par là, à 11h, c'est des bagarres.
D'accord.
Avec des groupes.
Ok, merci beaucoup, Isidore Akolon. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Actu Express. Et Adam Andronou, merci, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Et merci beaucoup, Eric Pakoudjo Johnson, directeur de publication du journal L'Union. Merci, Jean-Baptiste Atisso, directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi du site d'information corpsdiplomatiques.tg. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour votre contribution à ce débat. Merci à vous. Merci à Thomas et Ted TV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez.